merci pour toute la parole que tu as parlé, mais tu continues de nous apparaître ce soir. Que l'onction puisse venir sur notre écoute. Nous avons faim et soif et appétit de ta parole. Nous prions que ta parole nous perfectionne. Fais de nous de ceux qui vint par celui qui nous a aimés. Que cet appel pour les vainqueurs puisse aussi venir dans ce temps. Aide-nous dans une vie journalière pour vaincre avec toi. Nous voulons être pour ton armée. Accomplis ton plan avec nous, que tu puisses vraiment obtenir ce que tu veux, que tu puisses fortifier tous les membres de ton Église pour vaincre toute nicht, que l'ennemi puisse venir sous nos pieds, que ce soir tu puisses continuer de parler à ton Église. Nous avons besoin de toujours plus de ta parole. Et fortifie notre homme intérieur, que nous puissions vivre dans cela. Seigneur, purifie-nous tous par ton sang précieux. Comme tu as promis, puisse-nous purifier entièrement. Tu veux une église glorieuse, sans tache ni ride, qui est sainte, sans défaut. Nous pouvons le faire par toi. Nous faisons confiance. Nous avons besoin de l'approvisionnement par ton esprit. Amène-nous de parvenir au but. Louez le Seigneur. Je vois qu'il y a la sœur de Pologne, la claque. Comment est-ce que tu vas? Louez le Seigneur, je vais bien. Combien tu resteras encore de temps en Pologne? Le Seigneur sait, mais tu devrais aussi savoir. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur, tu puisses participer aux réunions et participer à la communion. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Louez le Seigneur. C'est bien de te voir. Ça fait plaisir de tous vous voir. Seigneur Jésus, vous avez déjà parlé tant de paroles. Qu'est-ce que je dois encore dire? Nous avons besoin de peu de paroles. Ou peu de paroles saintes. Et bien plus la réalité, que ce soit notre essence. Ce n'est pas ce que nous savons, ce que nous avons compris. Nous pouvons tous bien choisir. Mais le Seigneur n'a pas peur de notre parole. Notre marche, notre être, il veut la réalité. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Deux. Comme il a été dit, Paul, je connais Jésus-Christ, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Dans la chrétienté, aujourd'hui, il y a tant de pasteurs, de personnes qui parlent, d'enseignants, des personnes qui sont appelées des prophètes. Il y a beaucoup de personnes qui parlent bien, mais à quoi ça sert et à quoi ça sert de parler? Un discours. L'ennemi n'a pas peur d'un bon partage. 60 années, nous avons, ou j'ai pendant 60 années, entendu des bons messages. Même celui qui a parlé, il a dit, qui peut voir? Il a même dit qu'il avait déjà tout vu dans l'Écriture, ce qu'il y avait à voir dans l'Écriture. Mais est-ce que vous pensez que l'ennemi a peur de notre parole ou de notre conférence? La parole dans la Bible devrait suffire pour elle-même. La nourriture, la vraie nourriture, c'est la réalité du Seigneur. La parole est la vérité. C'est pour ça qu'il a dit, que Pierre a dit dans 2 Pierre, en premier, ce que nous devons prendre, à quoi nous devons prendre garde, de la parole prophétique, c'est notre propre interprétation, explication. J'aimerais pas expliquer la parole de Dieu, j'aimerais le connaître. Parce qu'au début, il a été dit si clairement, dans Jean, la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la même chose, par sa parole. Dieu a parlé. Et c'est devenu. Aujourd'hui, je fais plus confiance à une bonne explication, à un bon message. Mais j'aimerais venir directement à la parole vivante. Parce que ces paroles même, c'est la vérité. Seulement quand le Seigneur parle, il y a de la substance. Si je parle, alors je ne suis pas toujours sûr s'il y a de la substance. Est-ce que vous pouvez vous représenter si les femmes, elles parlent au repas de midi de la nourriture? Qu'est-ce que tu penses, frère? Est-ce que tu serais satisfait seulement d'entendre ce que ta femme parle de la nourriture, frère? Tu aimerais de la vraie nourriture, voir de la vraie nourriture sur la table. Nous ne pouvons pas penser que notre parole est de la nourriture.
In
en lui était la vie. Et la vie était la lumière. Et la lumière de la vie qui brille, qui illumine dans notre être et expose notre être. C'est pour ça, quand le Seigneur est revenu, dans Zacharie, il a dit, personne n'a dit, n'avait l'hardiesse de dire, je suis un prophète. Comment est-ce que nous pouvons être un prophète si dans notre vie journalière, nous disons du non-sens, nous parlons des choses de non-sens, et dans nos pensées, nous pensons encore à d'autres choses. La parole de Dieu est sainte. C'est pour ça qu'il est dit. Celui qui ajoute, Dieu ajoutera aussi son jugement. Et celui qui enlève quelque chose de la parole de Dieu, Dieu enlèvera sa part à l'arbre de la vie. C'est quelque chose de très sérieux. C'est sérieux d'être sérieux avec la parole de Dieu. Qui veut avoir la communion avec la parole de Dieu? Alors il doit y avoir la crainte. Nous devons le glorifier parce que c'est la parole. Comment est-ce que nous allons avec sa parole? Nous traitons sa parole. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'avertissements du Seigneur lui-même dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle Alliance. Tous les apôtres ont averti. Et beaucoup de faux prophètes et de faux enseignants. Paul a dit, nous ne sommes pas c'est pas quelque chose qui est mélangé avec de l'eau, avec notre propre interprétation. Et à la fin, ça amène tant de problèmes. Tant de problèmes. En lien avec l'unité, par exemple, nous parlons de l'unité. Quelle doctrine sur l'unité? Frère Afayen. Qui vous a jeté dehors? Pour ceux qui étaient tant pour le terrain, la base de l'unité. Frère, est-ce que j'ai raison? Oui. Même quelqu'un a dit, nous devons avec ceux qui sont rebelles, on doit les amputer. Nous devons amputer ces membres. Est-ce qu'on dit ça en allemand, amputer? Christ aime l'Église, mais ampute ses membres. Son corps, les membres, à la fin, il n'y a plus de membres. Oh Seigneur, certaines personnes ont on met les membres en quarantaine. Les membres saints, ils les ont mis en quarantaine. Ils font tout à l'inverse. À quoi ça sert l'amour si nous faisons l'inverse sur notre doctrine et ce que nous partageons? Est-ce que nous n'avons pas de crainte devant Dieu? Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Paul ne voulait pas parler ses propres paroles. Il parle seulement ce que le Seigneur a œuvré en lui. Lui, c'est ce qu'il dit dans Romains. Mais nous parlons encore tant d'autres choses, de d'autres pensées ou d'autres sources. Ce n'est pas étonnant que Esaïe a dit, quand il a vu le trône, il a vu le Dieu saint, le Dieu qui est glorieux. Où les séraphins étaient autour de lui. C'est saint, saint, saint. Quelle était la réaction de Esaïe? Ah, je suis béni parce que j'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il dit, Esaïe? Malheur à moi. Parce que je suis un homme avec des lèvres impures. Est-ce que vous pouvez vous représenter que ce prophète, c'était un des plus grands prophètes du temps de l'Ancienne Alliance? Il a dit de lui-même, « Malheur à moi, je suis un homme avec des lèvres impures. » Et quelle était la source des lèvres impures, si ce n'est pas du cœur? Parce que de la plénitude du cœur, la bouche déborde, la plénitude du cœur. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'être court, vivant et au point. Et même dans vos offrandes pour le Père. Ce n'est pas l'histoire. Nous voulons amener Christ comme holocauste. Quelqu'un qui a seulement vécu pour la volonté du Père. Il a même dit dans Jean 6, c'était sa nourriture. Dans Jean 4, pardon. Ma nourriture est de faire la volonté du Père et de l'accomplir jusqu'à la fin. Dans chaque aspect de la vie de notre Seigneur, c'est pour accomplir la volonté du Père. Il n'a eu pas d'autre sens dans son cœur. Aussi, dans l'Épître aux Hébreux, il a dit, « Tu m'as donné un corps. Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Pour faire ta volonté. Jésus, quand il a vécu sur cette terre, toute sa vie, autrefois, était de faire la volonté du Père. C'est égal qui c'est qui est venu. Où c'est qu'il est allé. Ou vers les hommes. Contre Satan, l'ennemi. Il a eu de la compassion avec les hommes, même avec les non-croyants. Nous n'avons même pas de compassion pour nos propres frères et sœurs. Et nous voulons gagner son humanité, son obéissance. Qu'est-ce que nous comprenons avec son humanité? Que nous nous comportions bien? Son humanité a été prête par toutes sortes d'épreuves, des souffrances passées par cela. D'être prêt à souffrir. Nous ne sommes même pas prêts d'avoir un peu de critique ou une amélioration d'un frère, de recevoir ça. Nous sommes très vite offensés et nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Qu'est-ce que je dois dire, frère? L'humanité du Seigneur. Nous parlons du vieil homme, du nouvel homme. Nous avons besoin d'être renouvelés. Même de revêtir le nouvel homme qui est renouvelé continuellement. Il doit être encore plus être renouvelé. Combien de fois est-ce que tu changes tes habits, frère? Très souvent. Combien de fois? Particulièrement en été. Chaque jour. Pourquoi chaque jour? C'était propre. Et ta femme l'a même repassé droitement pour toi. C'était bien repassé, c'est blanc comme la neige, si c'était une couleur blanche. À la fin de la journée, tu as transpiré. Et si tu fais une promenade dehors, alors il y a tant de poussière qui se colle à tes habits. Alors tu dois l'enlever, le laver, et ensuite tu pourras le remettre. Nous revêtons le nouvel homme, c'est clair. Mais combien de fois nous devons avoir la purification? Nous devons l'avoir, le renouvellement. Est-ce que tu manges, tu marches toujours dans la lumière? C'est pour ça que dans l'épître de Jean, il est dit au chapitre 1, Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais nous marchons toujours dans les ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, alors comment est-ce que nous pouvons avoir de la communion avec le Père? Dieu est saint. Nous ne sommes pas simplement pour le sacerdoce. Pierre a mentionné tête du saint sacerdoce. Nous sommes des pierres vivantes, bâties comme maison spirituelle pour un saint sacerdoce. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous encourage. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oh Seigneur. Et qu'est-ce que dit le psaume 110 de l'armée? D'une armée pleine de volonté qui suit le Seigneur. Ils sont tous revêtus avec cette sainteté. Aujourd'hui, les armées ont des uniformes pour que personne les voient et pour qu'ils puissent se cacher dans la nature, pour qu'ils deviennent invisibles pour l'ennemi. Nous n'avons pas besoin d'un tel uniforme. Un uniforme de camouflage. Mais nous sommes revêtus avec la magnificence de la sainteté. Revêtus de blanc, de fin lin, de justice, la sanctification, les œuvres justes. Plus c'est clair, mieux c'est. Nous n'avons pas peur que l'ennemi nous voie. S'ils regardent notre fin lin, ils doivent partir. Parce que nous sommes lumière. Nous ne devons pas nous cacher. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais malheureusement, nous avons encore le péché en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous mentons. La vérité n'est pas en nous. Dieu est lumière. J'ai souvent dit aux saints, il y a trois merveilleuses paroles que notre Dieu glorieux a écrites. La première parole, c'est la justice. Juste. Tu penses que tu es juste? Non, personne n'est juste. Si ce n'est qu'un. Seulement lui est juste. Sa parole est sainte. Dieu est saint. Soyez saints, car je suis saint. Et dit Pierre, en particulier en lien avec le sacerdoce. Au chapitre 1. Soyez saints dans toute votre conduite. Parce que Dieu est saint. Et ce n'est pas étonnant que nous n'ayons pas vu Dieu. Si personne ne peut le voir et vit, c'est impossible. Et ensuite, Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Rappelez-vous, la prière de Jésus. Dans Jean 17, il a parlé, pas seulement au Père dans le ciel, il a dit, ô juste, ô Père juste, ô Père saint. Ça veut dire le Seigneur. Il était conscient dans son cœur que Dieu est juste. Ce que Jean dit, si nous avons cette vie, nous devons être justes comme lui est juste. Être pur comme il est pur. De marcher comme il a marché. De marcher dans la lumière. Et nous aimons, pas seulement aimer, mais aimer comme il nous a aimés. Comment est-ce que le Seigneur nous aime, nous a aimés? Quand tu es devenu mieux, il t'a aimé. C'est pas assez? Sœur, je vois que tu souris. Quand est-ce que le Seigneur nous a aimés? Qu'est-ce que Romains 5 nous dit? Quand nous étions encore quoi? Quand nous étions ennemis. Quand nous étions encore ennemis, il nous a aimés. Il est mort pour nous. Mais nous, les frères, nous avons même sommes regardés comme ennemis. Nous devons les amputer. Qu'est-ce que tu fais, frère, quand ton pouce est enflammé, il a un problème avec l'ongle? Tu amputes directement ton doigt? Tu fais pas comme ça? Normalement pas. Mais si tu fais cela, alors bientôt tu n'auras plus de doigts. Et tu te réjouis. Ah, maintenant j'ai plus de problème. Est-ce que tu penses? Tu amputé et ensuite tu n'as plus de problème. Tu vas encore avoir de plus grands problèmes. Tu penses, tu n'auras plus de problème. Si tous les doigts qui sont malades, tu les amputes. Non. Alors, il y a le problème, seulement le problème qui commence là. Père Dieu, juste et saint. Peut-être que nous pensons nous sommes plus justes que Dieu. Non, nous avons notre propre justice. Ce n'est pas facile, c'est pas facile de le connaître. De le connaître dans chaque situation. De le connaître. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de problèmes? Par notre propre compréhension de la parole de Dieu. J'aimerais pas avoir ma propre compréhension. J'aimerais obéir à la parole de Dieu. Les hommes disent, il y a ceci et cela, c'est de l'Ancien Testament. Pour ça que les lois, les commandements de l'Éternel sont du Vieux Testament, de l'Ancien Testament, ça veut dire que tu ne dois plus aimer Dieu. Parce que c'est les commandements de l'Ancien Testament, les 10 commandements. C'est déjà vieux. D'amener des offrandes au Père, ça c'est vieux. Dieu a fait la première offrande. Et même avant la création du monde, il a préparé comme l'agneau. Est-ce que vous pouvez vous présenter cela avant la fondation du monde et ensuite en posant le fondement du monde, il a déjà sacrifié l'agneau. Et ensuite, il y a 2000 ans, quand Jésus-Christ est venu, ça a été apparu, il a été crucifié. Quand est-ce qu'il a commencé l'offrande? Avec Abel? Non. Dans le jardin d'Éden, il l'a sacrifié et ensuite il a reçu une peau pour cacher Adam et Ève, pour cacher leur nudité, pour qu'ils ne doivent plus se cacher. Abraham, et même avant Abraham, Noé a amené des offrandes. Abraham, il a amené des offrandes. Tout le peuple d'Israël, ils ont amené des offrandes. Et quand Jésus-Christ est venu, il s'est offert lui-même comme la réalité de toutes les offrandes. Ensuite, Pierre a aussi dit, un saint sacerdoce, c'est de donner un bon message dimanche. Est-ce qu'il a dit cela? Des offrandes spirituelles qui plaisent, qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frère, est-ce que tu peux être contre cela? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Non. Ça, Dieu ne veut pas, c'est l'Ancien Testament. Alors, Pierre a écrit du non-sens. Jésus-Christ est la réalité de toutes les offrandes. Est-ce que c'est faux qu'aujourd'hui nous expérimentons Jésus-Christ journalièrement comme l'Holocauste et que notre cœur brûle pour sa volonté et dans notre expérience nous amenons Christ comme Holocauste au Père pour le satisfaire? Mais en fait, ce n'est pas simplement pour le satisfaire, mais pour ton salut, pour ta transformation. C'est la sagesse de Dieu. Il a demandé cela de nous pour que nous puissions l'expérimenter, pour lui amener cela. Parce que sinon, tu vas jamais le faire, jamais le remarquer que Jésus-Christ est notre holocauste. Tu penses seulement à tes péchés, même pas comme l'offrande pour le péché, pour tes péchés, pour l'esclavage du péché, pour être libéré. Mais nous pensons seulement à l'offrande pour les transgressions, parce que nous avons tant de transgressions. Ah, pardonne-moi, ah, pardonne-moi, à chaque jour. Ah, purifie-moi, ah, pardonne-moi. Est-ce que c'est une un pardon et d'être libéré. Est-ce que c'est si terrible d'amener des offrandes au Père? C'est nos merveilleux amours pour ce Dieu juste, le Père de gloire. Pour que nous, particulièrement nous, quand nous venons ensemble à la, au fête de l'Éternel, ou est-ce que tu célèbres la fête chaque jour? Ok. Alors si tu célèbres la fête chaque jour, alors tu peux amener des offrandes au Père, mais pourquoi dans le Seigneur a dit qu'il devait aller 3 fois par année dans l'Ancienne Alliance. Les 3 fois par année, c'était des temps de fête. C'est pour ça que Esaïe a dit « Sion est la ville de nos fêtes. » Aussi dans Hébreux 12, nous sommes venus à Sion, la ville du Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est une réunion de la fête? Nous faisons, les croyants font des réunions d'annonces, de messages. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais ne force pas les saints à amener quelque chose. Ne fais pas cela, s'il te plaît. C'est déjà assez que toi tu amènes une offrande au Père, mais ne force pas les autres. Et il y a différentes grandeurs de l'Holocauste. Ne force pas que les personnes, chaque fois, amènent un taureau. Ils doivent amener un taureau. Et tu n'es même pas sûr que ce que tu as amené est vraiment un taureau. Et le Père est déjà satisfait même avec une colombe. Si tu n'es pas satisfait, est-ce que tu es le Père? Mes petits enfants quand elles m'ont amené des bonbons, je me suis beaucoup réjouie. J'ai pas dit pourquoi est-ce que tu m'amènes un bonbon, pourquoi est-ce que tu m'amènes pas un nouvel ordinateur. Donner à chaque saint la liberté d'après leur mesure du don de Christ, d'amener leur don au Père. C'est bien. Ne soyez pas comme les Juifs autrefois qui voulaient faire fuir mes enfants. Laissez notre maître en repos. Allez, partez. Est-ce que vous êtes de telles personnes? Mais nous encourageons chacun. Nous encourageons tous pour ça qu'il est dit avec l'Holocauste. Si tu n'as même pas, tu ne peux pas amener un taureau, alors amène un agneau. Si tu n'as pas un agneau, alors tu peux amener une chèvre. Et si tu es pauvre, alors amène une colombe. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est le cœur du Père. Nous parlons de l'amour du Père aimant. Mais où est notre amour? C'est ton amour. Nous voulons expérimenter l'amour du Seigneur comme Christ nous a aimés. Et nous a aimés le premier. Par cette vie éternelle que nous avons reçue, qu'automatiquement nous allons aimer les saints. C'est pour ça que Jean a dit que celui qui a il aime celui qui sont nés de lui. Les traductions, c'est « doit aussi aimer », c'est pas « il doit », mais si tu dois, alors tu n'aimes pas d'après cette vie. Mais si tu aimes après cette merveilleuse vie qui est Christ, alors automatiquement tu aimes les frères. Parce que cette vie qui est vie qui vit maintenant en nous et qui demeure en nous, s'est donné lui-même sa vie pour les frères. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Quelqu'un laisse sa vie de l'âme pour son frère, pour ses frères. C'est pour ça qu'elle a dit « Je vous ai choisi ». Paul écrit aux Thessaloniciens sur l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin que je vous enseigne. Parce que vous-même, vous êtes de Dieu. Vous avez été enseigné par Dieu. Dieu lui-même vous enseigne à aimer et pas par un partage, un message, mais par sa vie, par l'onction en toi. Parce que l'amour de Dieu a été versé par le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, cet esprit qui est en nous, c'est la vie. Et cette merveilleuse vie, avec la merveilleuse, ce merveilleux amour, si nous sommes dans la vie, alors personne n'a besoin de vous enseigner « aime les frères ». Si nous enseignons trop là-dessus, alors ça veut dire que nous n'avons pas cet amour. Mais cet amour, elle est révélée, la vie est révélée. Seigneur Jésus, une telle vie qui vit aujourd'hui en nous, c'est une vie de vainqueur. L'ennemi n'a pas peur de nos œuvres. Beaucoup de grandes œuvres et il se glorifie de leurs œuvres. Plus l'œuvre est grande, alors il est dit, plus ça devient impur. Babylone est grande. Ça veut dire Babylone, c'est Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est grand, puissant et grand. Mais Jérusalem est la ville sainte. Qu'est-ce que tu veux, grand ou saint? « quand l'Église était petite, c'était très saint. Quand c'est devenu grand, il y a tous les oiseaux qui sont venus vers ce grand arbre. Qu'est-ce que vous voulez, une grande œuvre? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas gagner les hommes. C'est bon. Nous devons annoncer l'Évangile pour que plus de personnes soient sauvées, mais ce n'est jamais une grande œuvre. Le salut, c'est une chose. Mais que la vie grandisse et l'éducation de la vie spirituelle, c'est autre chose. L'œuvre à Jérusalem était grande. Même Jacob s'est glorifié devant Paul. Regarde tous ces milliers qui ont été sauvés parmi les Juifs, même les sacrificateurs. Et ils sont tous assidus pour la loi. C'est à 10 000 qui ont à ce zèle pour la loi. Qu'est-ce que tu dis? Je crois que Paul n'a pas eu grand-chose à dire. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'était une église, toute petite église. Tous les services. Ah, le temps passe. Dans Apocalypse, au chapitre 1 à 3, qu'est-ce que le Seigneur a révélé? Premièrement, il s'est laissé apparaître lui-même, le souverain sacrificateur. Il s'est montré en tant que le souverain sacrificateur de l'Église. Pas seulement glorieux, mais saint. Et même impressionnant d'un point positif que Jean l'apôtre, quand Jésus est encore sur cette terre, et à Patmos, il l'a vu, il est tombé à terre comme mort, plein de peur qu'il ait vu un Christ qu'il n'a encore jamais connu. Ainsi, est-ce que nous avons telle attitude? La doctrine, c'est facile. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une crainte pieuse, piété de ce souverain sacrificateur? Nous apprécions le souverain sacrificateur dans Hébreu qui intercède en tout temps pour nous. C'est merveilleux. Mais dans Apocalypse, il a vu un autre souverain sacrificateur qui était identique. Ah, parce que l'Église n'était plus normale. Nous sommes sur un mauvais chemin qui mène à la perdition et à la fin. Nous appartenons à la Grande Babylone. D'où est-ce que vient Babylone dans le chapitre 16, si ce n'est pas des églises déchues d'Apocalypse 2 et 3? Babylone, dans le chapitre 17, c'est le résumé de toutes les choses négatives. Au chapitre 2 et 3. et même Jézabel à la fin. Tu as le mystère de Satan là à la fin. Le monde pleinement dedans à Babylone et sans amour est mort. Les Nicolaïtes, toute la hiérarchie, c'est terrible. Et Balaam, et tout qui est là, c'est Babylone. Dans Apocalypse 17, c'est les éléments du chapitre 2 et 3 pour ceux qui n'ont pas voulu se repentir et qui ont continué dans cette direction à la fin, ils deviennent Babylone la Grande. Satan a gagné. C'est même devenu une maison pour les oiseaux. Pour ça que nous devons, ce n'est pas une doctrine. Tu dois. Je ne sais même pas comment je peux décrire cela. C'est un Christ que nous ne connaissons normalement pas. Avec des yeux de feu, est-ce que c'est la vie? De sa bouche sort une épée. Est-ce que c'est l'amour? Ses pieds comme de l'ardent, du fer ardent. Est-ce que quelqu'un aimerait qu'il vienne à la réunion avec des pieds ardent avec des yeux de feu de comme du feu et avec une épée à deux tranchants. Pour vous, ça n'a pas l'air d'être l'amour. Mais pour le Seigneur, c'est l'amour. L'épée de sa bouche n'est pas pour vous tuer, mais pour tuer l'ennemi. Mais pas pour amputer. C'est pour enlever tout ce qui n'est pas sain de vous, des saints, mais d'un autre côté, c'est aussi pour pleinement enlever l'ennemi du chemin. C'est pour ça qu'il dit à la fin, à l'Odyssée, ceux que j'aime, je les juge. Ils nous jugent, mais ils ne nous amputent pas, ils ne nous envoient pas loin. À la fin, tu restes seul. Et tu penses, tu es la maison du Dieu vivant. C'est une blague. Nous avons besoin de ce merveilleux souverain sacrificateur. C'est l'autre côté de l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, il est dit, ce merveilleux souverain sacrificateur, ils ont rendu toutes choses. Il est devenu homme comme nous, mais sans péché, pour qu'il puisse nous comprendre et puisse avoir de la compassion avec nous, pour qu'il puisse nous aider. Et en tout temps, il intercède pour nous parce qu'il nous comprend. Mais ça, c'est seulement un côté. L'autre côté, c'est dans Apocalypse 1. L'Église, quand elle est dans cet état déchu, elle a besoin de ce Christ. Qu'est-ce que nous voyons de l'autre côté dans Apocalypse 2 et 3? L'Église? Frère, qu'est-ce que tu vois dans Apocalypse 2 à 3? les églises. N'est-ce pas? Quelle sorte d'église? T'es un chandelier d'or. Non, il veut seulement un lieu, une église. Non, des chandeliers d'or. Non, un lieu, une église, c'est l'église. Non, des chandeliers d'or. Non, un lieu, une église. Ça, c'était la vision, là, non. Des chandeliers d'or. Pourquoi est-ce que tu es si têtu? Non, tu n'es pas têtu, mais c'est écrit. Si tu es un chandelier d'or, alors je suis sûr, tu as l'unité. Parce que c'est l'or qui nous amène ensemble. Un chandelier, ensuite, nous remplit avec l'huile, avec l'huile d'olive pure, rempli avec le Saint-Esprit, plein d'esprit, comme dans Actes. Ils étaient tous remplis de l'esprit, pas plein de connaissances, de doctrines. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela? De quoi est-ce que nous sommes remplis? La doctrine tue, nous rend fiers et à la fin nous pensons nous avons raison, les autres pas. Alors nous disputons. J'aimerais me disputer avec personne sur la doctrine. Peut-être autrefois, une autre fois qu'aujourd'hui. Le Seigneur aimerait avoir des chandeliers d'or. Je me demande combien nous connaissons de doctrine, combien est-ce que nous avons d'or. Je ne dis pas des euros. Mais je veux dire de l'or fin qui est passé par le feu. L'or céleste. Le Seigneur dit même à Laodicée, achetez de l'or de moi qui est éprouvé par le feu. Et de l'onction, de l'huile pour que vous puissiez voir le collyre. Tant de choses, de doctrines, la connaissance, ça ne veut pas dire que tu vois. Plus tu as de connaissances, plus tu es aveugle, plus tu deviens aveugle. C'est pour ça qu'à Laodicée, ils sont aveugles, pauvres et nus. Ils sont tièdes. Pauvre. Notre richesse n'est pas d'un royaume de richesse. Chacun sait cela, mais notre chair nous tire toujours au désir de la chair, à la convoitise des yeux. Mais notre richesse dans la maison du Seigneur, c'est de l'or céleste, l'être du Seigneur, la nature du Père, Ça, c'est notre richesse dans l'Église. Combien nous avons d'huile? Combien est-ce que nous avons d'onction? Et la justice de ce fin lin qui est clair, qui est blanc, la justice, c'est dans notre marche. La justice, ce n'est pas une justice, mais c'est exprimé par ta marche. Pas par la doctrine, par la foi, c'est pour ça que nous marchons par la foi. Pas parce que nous avons la foi, mais celui qui a la foi aussi, la preuve et la réalité de cet être, sa justice. Et si nous avons toutes ces choses, alors tu as aussi cette armure. Parce que sinon, de où est-ce que tu obtiens la substance, les éléments pour tes armes, pour te revêtir des armes? C'est du carton. De quoi est-ce qu'elles sont faites? De plastique. Nous sommes ainsi, le Seigneur aimerait avoir un chandelier d'or qui brille, rempli d'huile. Parce que si nous sommes un tel chandelier, tu n'as pas besoin de parler de l'unité. Alors, automatiquement, nous sommes un. Comment est-ce que c'est possible si tu es plein de ce Jésus et du Père? Tu as part à la nature divine, comme Pierre a écrit. Si nous sommes tous pleins de cette nature divine, alors nous n'avons pas besoin de parler de cela. Et pourquoi est-ce que nous disputons encore sur l'unité? Rappelez-vous au cantique des degrés. Psaume 133, il est tout en haut. Ce n'est pas le premier pas en bas. Le premier pas en bas, c'est plein de mensonges, de disputes, sans paix. Et ensuite, il y a la persécution, etc. Et ensuite, tu montes les escaliers, les marches. Tu commences avec le psaume 120. Et seulement tout à la fin, le psaume 133. Et ensuite le 134, tu dois tenir ferme à cette unité et aussi veiller pour ne pas perdre, ne pas glisser. Bien que nous avons des conférences, mais pensons à la conférence, nous voulons encore plus entendre. Qu'est-ce que nous voulons encore plus entendre? Nous voulons plus saisir Christ. Mais ça, tu le fais dans ta vie journalière. Est-ce que vous avez la paix, des offrandes de paix? Ou est-ce que vous disputez les uns avec les autres? Ensuite, on critique les uns les autres. Alors nous parlons de l'amour fraternel, ça ne fonctionne pas. Ça, nous avons aussi vécu autrefois. Est-ce que vous vous rappelez? Peut-être que vous êtes tous trop jeunes. Ah, peut-être que Wilfried peut se rappeler. Au milieu de grandes difficultés dans les églises aux États-Unis, on a parlé de l'amour fraternel, mais ça n'a pas fonctionné. C'est à ce moment qu'il y a le chant est venu. Est-ce que vous vous souvenez du chant de l'amour fraternel? Frère, vous vous souvenez? On le connaît. Mais ça n'a pas fonctionné. Plus ils ont chanté cela, plus la dispute est devenue terrible. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Si le chandelier n'est plus en or, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de lumière, il y a des ténèbres. Ce n'est pas étonnant qu'à la fin, il y a Babylone qui vient. Ensuite, nous voyons le combat entre Dieu et Satan dans Apocalypse 1 à 3. Au final, le combat, il en vient que l'ennemi, royaume de Dieu, chandelier d'or, soit détruit pour qu'il n'y ait plus de lumière sur cette terre. Il regarde. Parmi les croyants, il y a beaucoup. J'ai beaucoup entendu, ils sont partis, mais ils sont même partis de la foi parce qu'ils étaient déçus. Ils ont dit non. Il n'y a rien. Ils n'ont pas eu de confiance à la parole. Tu ne peux plus leur parler la vérité. Ils disent non. On a déjà tout entendu, on a déjà tout vu. Bien qu'ils n'aient pas tout vu déjà. Cet effet de Babel, c'est un effet, un contre-effet de ce que le Seigneur veut faire. Ils sont allergique contre la Bible, contre la parole, contre la vérité. Et on ne peut plus parler avec eux de cela. Et ainsi, loue le Seigneur. Le Seigneur veut nous regagner, faire de nous des vainqueurs. Un frère a partagé, le Seigneur n'a pas dit celui qui croit, mais c'est celui qui vainc, celui qui vaincra. C'est une parole très courte, mais ça reste en tête. C'est pas celui qui croit. Tout le monde dit ce qu'il croit. Mais il n'en vient pas de la foi, il en vient de vaincre. Celui qui vaincra. Ensuite, nous devons aller au chapitre 12, au vainqueur. Parce que Satan, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'accusateur vient, alors tu dois prendre le sang. Rappelle-toi, Zacharie 3. Satan a même une raison d'accuser Josué. Mais le Seigneur a aussi une raison de dire que l'Éternel te réprimande, Satan. Ses habits sales, il les a enlevés, il leur a donné des habits nouveaux, frais. Il les a donnés à Josué pour les revêtir et même un turban sur sa tête. Nous vainquons. Le vainquons. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Apprends d'apprécier le sang. Pas simplement pour le pardon, bien sûr, c'est pour le pardon. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de pardon? Parce que tu sais, tu as quelque chose de faux. Mais tu dois te repentir, tu dois revenir. Se changer, pas continuer. Tu dis, ah, merci Seigneur pour le sang, et tu continues. Et demain, tu es exactement le même. Et dans un mois, tu es toujours le même. Et après une année, tu es toujours le même. C'est ce que Jean a dit, de reconnaître. Oh, il a été mis en muet. On ne l'entend plus. Il est en muet, il faut qu'il enlève son muet. Et enlève, s'il te plaît, ton muet. Non, on n'entend toujours pas. Toujours pas. Il faut mettre sur Zoom. Sur Zoom, tu es muet, tu dois envoyer. Maintenant. Ah, désolé. Est-ce que j'étais longtemps en muet? Non, c'était très court, parce que sinon je parle aux vaches et pas aux hommes. Oh Seigneur. Si nous prenons seulement le sang et nous ne nous repentons pas. Nous ne revenons pas. Comme Jean au chapitre 2, je vous ai écrit ces choses. Et ce qui est dit là, c'est dans le chapitre 1, pour pas que vous ne péchiez plus, pour que vous reveniez, pour que vous reconnaissiez, vous confessiez et pas vous cacher. Tu dis seulement avec des belles paroles, tu dis, ah, alors c'est bien. Tu as enfoncé ta femme, alors le jour d'après, tu amènes des fleurs, mais les fleurs ne purifient pas tes péchés. Tu dois reconnaître, de dire, pardon, pardonne-moi, j'ai péché. C'était faux, faux ce que j'ai fait. Pas avec des belles fleurs, d'amener des belles fleurs. Peut-être que ta femme est même allergique contre les fleurs. Est-ce que tu penses que Dieu est satisfait avec cela seulement si tu confesses? Confessons. Si nous confessons nos péchés et nous nous repentons, pour ça qu'ils ont dit, cette fois, repens-toi. Ne continue pas, reviens. Viens au bon chemin de la sanctification. Si tu ne reviens pas, alors tu continues le mauvais chemin et tu fais à nouveau. Toujours nouvellement les mêmes fautes. Alors le Seigneur a une bonne raison de parler pour toi. Pour le Père, il est le juste. Si nous ne nous repentons pas, alors le Père va dire, personne ne s'est repenti. C'est pour ça que les non-croyants dans ce monde, quand ils sont sauvés, ils doivent aussi se repentir. Parce que sinon, ils ne sont pas sauvés. Si je confesse, alors je dois enlever cette chose de mon cœur celle cette fête des pains sans levain, que nous voulons nous débarrasser de tout levain. Et ne pas garder ça dans nos cœurs, de continuer de penser que c'est en ordre. Ce n'est pas en ordre. Ce n'est pas en ordre. Chaque fois que nous faisons ainsi, nous allons de plus en plus dans les ténèbres. C'est pour ça que la transformation est si difficile. Sans revenir, il n'y a pas sans repentance, il n'y a pas de transformation. Oh Seigneur, que le Seigneur puisse nous amener de l'avant pour vaincre par le sang et par la parole de leur témoignage, pas simplement par la parole. De citer la parole, c'est facile. Mais la parole de leur témoignage, ça veut dire que tu es un témoin. Tu es un témoin. Tu le témoignes. Ce qui est écrit, Satan peut le dire, lire soi-même. Il dit, oh, je connais aussi. Ah, je connais aussi le verset. Je l'ai même parfois cité. Je l'ai même parfois cité les versets. Nous pouvons aussi bien citer. Peut-être qu'il peut un peu même citer un meilleur verset contre ton verset. Mais la parole est un témoignage. Tu es un témoin, ça œuvre, ça fonctionne dans ta vie. La parole. Le Seigneur n'a pas simplement cité la Bible. Il a vécu une telle vie. Personne ne va dire « Adore ». Seulement le Père. Tu adoras seulement lui. C'était son exercice, c'était sa réalité. Si je cite cela, l'ennemi va rigoler. Mais tu t'es agenouillé chaque jour devant moi, tu as capitulé. Deuxième point est, la parole doit être notre témoignage. Les apôtres ont témoigné parce qu'ils ont vu le Seigneur. Ils ont beaucoup appris, ils se sont repentis. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont appris à se repentir. Peut-être que nous n'avons encore jamais eu un sentiment combien le péché amène à la mort. Le péché et la mort, ils vont ensemble. Nous prenons nos péchés comme des erreurs. Ah, j'ai fait une erreur. Tu as fait de tes péchés tes erreurs. Les erreurs, ce n'est pas vraiment ce qui est un péché. C'est C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux est écrit. Où est-ce que c'est écrit? Nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang contre le péché. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as combattu jusqu'au sang contre le péché? Non, encore, pas encore. Parce que le péché, nous ne l'avons pas encore vu comme quelque part, quelque chose de terrible, de mauvais. Nous pensons que c'est en ordre, j'ai le sang. J'ai le pardon, c'est en ordre, c'est OK. Non. À la fin, tu n'es pas OK, mais tu es KO. Et ensuite, il est dit, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé la vie de leur âme jusqu'à la mort. Maintenant, nous devons ajouter aux offrandes une libation. Pourquoi est-ce que quasiment le vin, il a quasiment la même couleur que le sang. Une libation, ça signifie nous avons pas aimé la vie de notre âme, nous avons versé pour faire la volonté du Père, pour être prêt pour la volonté des justes, pour la vérité, pour la volonté de Christ. Pour ça que le Seigneur a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et pour son nom, à cause de son nom. Dans le temps, nous devons tous apprendre à amener, peut-être le temps d'amener des libations au Père. Et ne pas oublier chaque jour d'avoir cette holocauste perpétuelle pour nous rappeler que notre vie journalière doit être pour la volonté du Père. Pas pour notre propre plaisir de faire ce que nous voulons. Louez le Seigneur. Vous voulez être des vainqueurs, n'est-ce pas? J'espère que ce n'est pas comme ce que Paul a dit dans Romains 7. Ah, j'ai la volonté, mais pas le vouloir et le pouvoir. Ça ne suffit pas de vouloir, mais nous devons collaborer avec le Seigneur. C'est un bon combat. Un combat, ce n'est pas agréable. C'est définitivement pas agréable. Nous avons besoin des offrandes. C'est pour ça qu'il est dit que nous devons offrir. Plus nous amenons Christ comme des offrandes, alors plus voyons, c'est pour notre transformation. La volonté du Père, c'est pour notre transformation. Pour ta transformation. Parce que si nous dans tous ces aspects de notre vie journalière, nous ne les expérimentons pas, alors nous ne parviendrons pas au but. Nous n'arriverons pas au but. Que nous puissions apprendre, s'exercer avec les offrandes. À la fin, tu es une offrande, comme le Seigneur lui-même. C'est le chemin. Nous ne pouvons pas attendre que chaque croyant, directement au début, ils ont cette persévérance. Corinthiens, c'est une des premières églises. Il y a eu tant de problèmes charnels. Et les sept églises. Le développement veut dire le combat, c'est du début à la fin. Et une chose nous devons savoir avant que nous terminions, c'est l'amour de Christ. Ce n'est pas l'amour de mes représentations ou de tes représentations. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui que j'aime, je le châtie. L'amour ne signifie pas la tolérance. Mais l'amour n'aime pas l'injustice, n'est pas juste d'après ta mesure. Nous n'avons pas notre propre justice. J'aimerais pas être comme Paul a dit, pas être trouvé dans ma propre justice. Combien souvent nous avons fait de l'expérience et nous avons pensé que nous avons raison quelques années plus tard, peut-être quelques jours plus tard, 5 années plus tard, nous réalisons que tu n'avais pas raison, mais tu avais tort. C'est pour ça que nous n'avons pas cette attitude de Paul. Pas d'être trouvé dans ma propre justice. Mais la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Christ, notre justice. Pourquoi? Parce que ton être est déchu. Même si tu avais raison, tu aurais faux. Pas parce que tu n'as pas raison, mais parce que ton être est faux. Un menteur peut parler de temps en temps la vérité. Mais si un menteur par la vérité, c'est aussi un mensonge. Chers frères et sœurs, Satan peut se transformer comme un ange de la lumière. Souvent, nous pensons que nous avons raison, même si nous avons raison. Nous devons connaître ainsi le Seigneur, juste comme il est juste, lui. Comme lui est juste. Pas d'après ma mesure. D'être pur comme lui est pur, pas d'après ma mesure. De marcher comme lui, il a marché. Pas comme moi, je pense que c'est juste. d'aimer comme Dieu aime? Est-ce que tu penses l'amour de Dieu? Si Dieu est amour, il ne devrait pas faire le feu. J'ai entendu ça, si Dieu est amour, alors pourquoi est-ce qu'il a fait un feu et il a jeté des hommes dedans? Non. Dieu est aussi juste, il est aussi lumière. Apprends de tout faire avec Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Le combat spirituel, c'est par Christ. D'être juste, c'est par Christ. D'aimer les saints, c'est par Christ. Ce qu'il est la réalité, cette vie éternelle, c'est le Seigneur lui-même. L'armure, c'est Christ. Nous revêtons Christ. Le saint sacerdoce. Nous devons revêtir des habits saints, des habits sacerdoces. C'est très saint. C'est pour ça que l'armée d'Apocalypse 19 doit être revêtue de fin lin, clair et pur, blanc. Merveilleuse armée, je crois que l'ennemi voit cette armée. Et si tous les ennemis voient cela, ils partiront, ils fuiront. Ils diront, waouh, une telle scène, une armée qui est claire avec des habits blancs. Alors ils doivent tous fuir. C'est trop tard pour fuir. Louez le Seigneur. Nous suivons le vainqueur. C'est pour ça que nous disons que ce cheval blanc dans le chapitre 6 d'Apocalypse, beaucoup ont dit, c'est l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist ne sera pas revêtu d'habits blancs. Et son cheval n'est pas un cheval blanc. Il ne va sûrement pas choisir un cheval blanc. Ou bien, si tu es le diable, quelle couleur est-ce que tu choisirais? C'est pour ça que tous les trois autres couleurs, rouge, noir, gris ou verdâtre, ce n'est pas des bonnes couleurs. Ce ne sont pas de bonnes couleurs. Mais le Seigneur, dans tout le livre d'Apocalypse, il a utilisé, et nous le voyons, cette couleur blanche. C'est notre merveilleux Seigneur. Il est le vainqueur. Et nous le suivons. Et à la fin, nous revenons et nous suivons ce cheval blanc. Nous sommes revêtu d'habits blancs. Et nous avec lui. Il y a tout qui est blanc. Louez le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans l'armée?
Amen.
J'ai vu un Marcus sur cet ordinateur. C'est qui ce Marcus? Il lève la main. Ah oui, c'est lui. Je ne vois pas si clairement. Bonjour. Maintenant, j'ai le son qui est allumé. Louez le Seigneur. À bientôt. On se reverra une fois. Que le Seigneur soit avec nous tous. Seigneur, nous te louons. Nous voulons faire partie de ton armée. Nous voulons ta justice, ta gloire, l'avoir. Tu es un Dieu merveilleux. Amène-nous tous à ce but.